Lettres écrites d'Égypte et de Nubie en 1828 et 1829, écrites par Jean-François Champollion. Huitième lettre. De l'île de Philae, le 8 décembre 1828. Nous voici depuis le 5 au soir dans l'île sainte d'Osiris, à la frontière extrême de l'Égypte et au milieu des Noirs Éthiopiens, comme eût dit un brave Romain de la garnison de Sienne, faisant une partie de chasse aux environs des cataractes. Je quittai Thèbes le 26 novembre, et c'est de ce monde enchanté que ma dernière lettre est datée. Il a fallu m'abstenir de donner des détails sur cette vieille capitale des pharaons. Comment parler en quelques lignes de telles choses et quand on n'a fait que les entrevoir? C'est après mon retour sur ce sol classique, après l'avoir étudié pas à pas, que je pourrai écrire avec connaissance de cause, avec des idées arrêtées et des résultats bien mûris. Thèbes n'est encore pour moi, qui l'ai couru 4 ou 5 jours entiers, qu'un amas de colonnades, d'obélisques et de colosses. Il faut examiner un à un les membres épars du monstre pour en donner une idée très précise. Patience donc, jusqu'à l'époque où je planterai mes tentes dans les péristyles du palais des Ramsès. Le 26 au soir, nous abordâmes à Hermontis et nous courûmes le 27 au matin vers le temple, qui piquait d'autant plus ma curiosité que je n'avais aucune notion bien précise sur l'époque de sa construction. Personne n'avait encore dessiné une seule de ces légendes royales. J'y passai la journée entière, et le résultat de cet examen prolongé fut de m'assurer par les inscriptions et les sculptures que ce temple a été construit sous le règne de la dernière Cléopâtre, fille de Ptolémée Auletès, et en commémoration de sa grossesse et de son heureuse délivrance d'un gros garçon, Ptolémée Césarion, le fruit de sa bénévolence envers Jules César, à ce que dit l'histoire. La tsella du temple est en effet divisée en deux parties, une grande pièce, la principale, et une toute petite, tenant lieu où la place du sanctuaire. On n'entre dans celle-ci que par une petite porte vers l'angle de droite. Toute la paroi du mur de fond de cette pièce, laquelle est appelée le lieu de l'accouchement dans les inscriptions hiéroglyphiques, est occupé par un bas-relief représentant la déesse Rito, femme du dieu Mandou, accouchant du dieu Arfré. La gisante est soutenue et servie par diverses déesses du premier ordre. L'accoucheuse divine tire l'enfant du sein de la mère, la nourrice divine tend les mains pour le recevoir assisté d'une berceuse. Le père de tous les dieux, Amon-Ra, assiste au travail, accompagné de la déesse Sovène, Lilithia, la Lucine égyptienne, protectrice des accouchements. Enfin, la reine Cléopâtre est censée assister à ces couches divines dont les siennes ne seront, ou plutôt n'ont été, qu'une imitation. L'autre paroi de la chambre de l'accoucher représente l'allaitement et l'éducation du jeune dieu nouveau-né, et sur les parois latérales sont figurées les 12 heures du jour et les 12 heures de la nuit sous la forme de femmes ayant un disque étoilé sur la tête. Ainsi, le tableau astronomique du plafond, dessiné par la commission d'Égypte, pourrait bien être que le thème natal d'Arfré, ou mieux encore celui de Césarion, nouvel Arfré. Il ne s'agirait donc plus dans ce zodiaque, ni de solstice d'été, ni de l'époque de la fondation du temple d'Hermontis. En sortant de la petite chambre pour entrer dans la grande, on voit un très grand bas-relief sculpté sur la paroi à gauche de cette principale pièce. Il représente la déesse Rito, relevant de Kush, soutenue encore par la lucine égyptienne Soven, et présentée à l'Assemblée des dieux. Le père divin, Amon-Ra, lui donne affectueusement la main, comme pour la féliciter de son heureuse délivrance. Et les autres dieux partagent la joie de leur chef. Le reste de cette salle est décoré de tableaux, dans lesquels le jeune Harfré est successivement présenté à Amon, à Mandou, son père, aux dieux Fré, Phtah, Tsev, Saturne, etc., qui l'accueillent en lui remettant leurs insignes caractéristiques, comme se démettant en faveur de l'enfant de tous leurs pouvoirs et de leurs attributions particulières. Et Ptolémée Césarion, à face enfantine, assiste à toutes ces présentations de son image, le dieu Harfré dont il est le représentant sur la terre. Tout cela est de la flatterie sacerdotale, mais tout à fait dans le génie de l'ancienne Égypte, qui assimilait ses rois à ses dieux. Du reste, toutes les dédicaces et inscriptions intérieures et extérieures du temple d'Hermontis sont faites au nom de ce Ptolémée Césarion et de sa mère Cléopâtre. Il n'y a donc point de doute sur le motif de sa construction. Les colonnes de l'espèce de pronaos qui le précède n'ont point toutes été sculptées. Le travail est demeuré imparfait. Et cela tient peut-être au motif même de la dédicace du temple. Auguste et ses successeurs, qui ont terminé tant de temples, commencés par les Lagides, ne pouvaient être très empressés d'achever celui-ci. Monument de la naissance du fils même de Jules César, roi-enfant dont ils ne respectèrent guère les droits. Du reste, un Katchef a trouvé fort commode de s'y faire une maison, une basse-cour et un pigeonnier, en masquant et coupant le temple de misérables murs de limon blanchis à la chaux. Le 28 au soir, nous étions à Esné, avec le projet de ne pas nous y arrêter. Je fis donc faire voile un peu plus au sud et débarquer sur la rive orientale pour aller voir le temple de Contralato. J'y arrivai trop tard. On l'avait démoli depuis une douzaine de jours pour renforcer le quai d'Esné que le Nil menace et finira par emporter. De retour au Maash, je le trouvai plein d'eau. Heureusement qu'il avait abordé sur un point peu profond et que, touchant bientôt, il n'avait pu être entièrement coulé à fond. Il fallut le vider et retourner à Esné le soir même pour le radouber et faire boucher la voie d'eau. Toutefois, nos provisions furent mouillées. Nous avons perdu notre sel, notre riz, notre farine de maïs. Tout cela n'est rien auprès du danger qui nous eût menacés. Si cette voie d'eau se fût ouverte pendant la navigation dans le grand chenal, nous eussions coulé irrémissiblement. Que le grand Amon soit donc loué! Pendant que nous séchions notre désastre dans la matinée du 29, j'allais visiter le grand temple d'Esné, qui, grâce à sa nouvelle destination de magasin de coton, échappera quelque temps encore à la destruction. J'y ai vu, comme je m'y attendais, une assez belle architecture, mais des sculptures détestables. La portion la plus ancienne est le fond du pronaos, c'est-à-dire la porte, et le fond de la tsela, contre laquelle le portique a été appliqué. Cette partie est de Ptolémée Épiphane. La corniche de la façade du pronaos porte les légendes impériales de Claude. les corniches des bases latérales, les légendes de Titus, et dans l'intérieur du pronaos, parois et colonnes sont couvertes des légendes de Domitien, Trajan, Antonin surtout, et enfin de Septime Sévère, que je trouve ici pour la première fois. Le temple est dédié à Schnoufis, et j'apprends par l'inscription hiéroglyphique de l'une des colonnes du pronaos que si le sanctuaire du temple existe, il doit remonter à l'époque de Thoutmôsis III, Meurys. Mais tout ce qui est visible à Esné est des temps modernes. C'est un des monuments les plus récemment achevés. Le 29 au soir, nous étions à Eletia, El Kab. Je parcourus l'enceinte et les ruines, la lanterne à la main, mais je ne trouvai plus rien. Les restes des deux temples avaient disparu. On les a aussi démolis il y a peu de temps pour réparer le quai d'Esné ou quelques autres constructions récentes. Avais-je tort de me presser de venir en Égypte? Je visitai le grand temple d'Edfou, Apollonopolis Magna, dans l'après-midi du 30. Celui-ci est intact. Mais la sculpture en est très mauvaise. Ce qu'il y a de mieux et de plus ancien date de Ptolémée Épiphane. Viennent ensuite Philométor et Évergète II. Enfin, Sotère II et son frère Alexandre. Ces deux derniers y ont prodigieusement travaillé. J'y ai retrouvé la Bérénice, femme de Ptolémée Alexandre, que je connaissais déjà par un contrat démotique. Le temple est dédié à Aroéris, l'Apollon grec. Je l'étudierai en détail, comme tous les autres, en redescendant de la Nubie. Les carrières de Silsilis, Djebel Salsele, m'ont vivement intéressé. Nous y abordâmes le 1er décembre à 1h. Là, mes yeux, fatigués de tant de sculptures du temps des Ptolémées et des Romains, ont revu avec délice des bas-reliefs pharaoniques. Ces carrières sont très riches en inscriptions de la 28e dynastie. Il y existe de petites chapelles creusées dans le roc par Aménophis Memnon, Horus, Ramsès le Grand, Ramsès son fils, Ramsès Meyamoun, Mandouéi. Elles ont de belles inscriptions hiératiques. J'étudierai tout cela à mon retour et me promets des résultats fort intéressants dans cette localité. Le soir même du 1er décembre, nous arrivâmes à Ombos. Je courus au grand temple le 2 au matin. La partie la plus ancienne est de Ptolémée Épiphane et le reste de Philométor et d'Évergète II. Un fait curieux, c'est le surnom de Tryphune donné constamment à Cléopâtre, femme de Philométor, soit dans la grande dédicace hiéroglyphique sculptée sur la frise antérieure du pronaos, soit dans les bas-reliefs de l'intérieur. C'est à vous autres, Grecs d'Égypte, d'expliquer cette singularité. J'avais déjà trouvé ce surnom dans un de nos contrats démotiques du Louvre. Le temple d'Ombos est dédié à deux divinités, la partie droite et la plus noble, au vieux Sévèque à tête de crocodile, le Saturne égyptien et la forme la plus terrible d'Amon, à Attir et au jeune dieu Khons. La partie gauche du temple est consacrée à une seconde triade d'un ordre moins élevé, savoir à Aroéris, l'Aroéris Apollon, à la déesse Tsonénophré et à leur fils Pnephtho. Dans le mur d'enceinte générale des temples d'Ombos, j'ai trouvé une porte engagée d'un excellent travail et du temps de Meurys. C'est le reste des édifices primitifs d'Ombos. Ce n'est que le 4 décembre au matin que le vent voulut bien nous permettre d'arriver à Sien, Aswan, dernière ville de l'Égypte au sud. J'eus encore là de cuisants regrets à éprouver. Les deux temples de l'île d'Éléphantine que j'allais visiter aussitôt que l'ardeur du soleil fut amortie ont aussi été démolis. Il n'en reste que la place. Il a fallu me contenter d'une porte ruinée en granit dédiée au nom d'Alexandre, le fils du conquérant. Au dieu d'Éléphantine Schnoufis et d'une douzaine de proscinemata, actes d'adoration, hiéroglyphiques gravés sur une vieille muraille. Enfin, de quelques débris pharaoniques épars et employés comme matériaux dans des constructions du temps des Romains. J'avais reconnu le matin ce qui reste du temple de Sienne. C'est ce que j'ai vu de plus misérable en sculpture. Mais j'y ai trouvé, pour la première fois, la légende impériale de Nerva, qui n'existe point ailleurs, à ma connaissance. Ce petit temple était dédié au dieu du pays et de la cataracte, Schnoufis, Saté, Junon, et Anoukis, Vesta. À Sienne, nous avons évacué nos mâches et fait transporter tout notre bagage dans l'île de Philae, à dos de chameau. Pour moi, le 5 au soir, j'enfourchai un âne et, soutenu par un Hercule arabe, car j'avais une douleur de rhumatisme au pied gauche, je me suis rendu à Philae en traversant toutes les carrières de granit rose hérissées d'inscriptions hiéroglyphiques des anciens pharaons. Incapable de marcher, et après avoir traversé le Nil en barque pour aborder dans l'île Sainte, quatre hommes, soutenus par six autres, car la pente est presque à pic, me prirent sur leurs épaules et me hissèrent jusqu'auprès du petit temple à jour, où l'on m'avait préparé une chambre dans de vieilles constructions romaines, assez semblables à une prison, mais fort saine et à couvert des mauvais vents. Le 6 au matin, soutenu par mes domestiques, Mohamed le Barabra et Soliman l'Arabe, j'allais visiter péniblement le grand temple. Au retour, je me couchai et je ne me suis pas encore relevé, vu que ma goutte de Paris a jugé à propos de se porter à la première cataracte et de me traquer au passage. Elle est fort benoîte, du reste, et j'en serai quitte demain ou après. En attendant, on prépare nos barques pour le voyage de Nubie. C'est du nouveau à voir. J'écrirai de ce pays si j'ai une occasion avant mon retour en Égypte. Tout va très bien du reste. C'est ici, à Philae, que j'ai enfin reçu des lettres d'Europe, à la date des 15 et 25 août, et 3 septembre dernier. Voilà tout. Enfin, c'est quelque chose, et il faut bien s'en contenter. Adieu. Neuvième lettre. Wadi Halfa, deuxième cataracte, 1er janvier 1829. Me voici arrivé, fort heureusement, au terme extrême de mon voyage. J'ai devant moi la deuxième cataracte, barrière de granit que le Nil a su vaincre, mais que je ne dépasserai pas. Au-delà existent bien des monuments, mais de peu d'importance. Il faudrait d'ailleurs renoncer à nos barques, se jucher sur des chameaux difficiles à trouver, courir des déserts, et risquer de mourir de faim, car 24 bouches veulent au moins manger comme 10, et les vivres sont déjà fort rares ici. C'est notre biscuit de Sienne qui nous a sauvés. Je dois donc arrêter ma course en ligne droite et virer de bord, pour commencer sérieusement l'exploration de la Nubie et de l'Égypte, dont j'ai une idée générale acquise en montant. Mon travail commence réellement aujourd'hui, quoique j'ai déjà en portefeuille plus de 600 dessins, mais il reste tant à faire que j'en suis presque effrayé. Toutefois, je présume m'en tirer à mon honneur avec 8 mois d'effort. J'explorerai la Nubie pendant le mois de janvier et à la mi-février, je m'établirai à Thèbes, jusqu'au milieu d'août que je redescendrai rapidement le Nil en ne m'arrêtant qu'à Dendera et à Abydos. Le reste est déjà en portefeuille. Nous reverrons ensuite le Caire et Alexandrie. Ma dernière lettre était de Philet. Je ne pouvais être longtemps malade dans l'île d'Isis et d'Osiris. La goutte me quitta en peu de jours et je pus commencer l'exploration des monuments. Tout y est moderne, c'est-à-dire de l'époque grecque ou romaine, à l'exception d'un petit temple d'Hathor et d'un propylon engagé dans le premier pylône du temple d'Isis, lesquels ont été construits et dédiés par le pauvre Nectaneb Ier. C'est aussi ce qu'il y a de mieux. La sculpture du grand temple, commencée par Philadelphe, continuée sous Évergète Ier et Épiphane, terminée par Évergète II et Philométor, est digne en tout de cette époque de décadence. Les portions d'édifices construits et décorés sous les Romains sont pires, et quand j'ai quitté cette île, j'étais bien las de cette sculpture barbare. Je m'y arrêterai cependant encore quelques jours en repassant pour compléter la partie mythologique et je me dédommagerai en courant les rochers de la première cataracte couverts d'inscriptions du temps des pharaons. Nous avions quitté notre Maash et notre Dahabieh à Aswan, Sienne, ces deux barques étant trop grandes pour passer la cataracte. C'est le 16 décembre que notre nouvelle escadre d'en deçà la cataracte se trouva prête à nous recevoir. Elle se compose d'une petite Dahabieh, vaisseau amiral, portant pavillon français sur pavillon toscan, de deux barques à pavillon français, deux barques à pavillon toscan, la barque de la cuisine et des provisions à pavillon bleu, et d'une barque portant la force armée, c'est-à-dire les deux Tchaouch, garde du corps du pacha, avec leurs cannes à pommes d'argent qui nous accompagnent et font les fonctions du pouvoir exécutif. J'oubliais de dire que l'amiral est armé d'une pièce de canon de Troie que notre nouvel ami Ibrahim, Mamour Desné, nous a prêté à son passage à Philet. Aussi avons-nous fait une belle décharge en arrivant à la deuxième cataracte, but de notre pèlerinage. On mit à la voile de Philet pour commencer notre voyage de Nubie avec un assez bon vent. Nous passâmes devant Déboud sans nous arrêter, voulant arriver le plus tôt possible jusqu'au point extrême de notre course. Ce petit temple et les trois propylons sont au reste de l'époque moderne. Le 17 à 4 heures du soir, nous étions en face des petits monuments de Kartas, où je ne trouvais rien à glaner. Le 18, on dépassa Taffa et Kalabché sans aborder. Nous passâmes ensuite sous le tropique, et c'est de ce moment qu'entrés dans la zone torride, nous grelottâmes tous de froid et fûmes obligés dès lors de nous charger de bournous et de manteaux. Le soir, nous couchâmes au-delà de Dandour, en saluant seulement son temple de la main. On en fit autant le lendemain 19 aux monuments de Jirche, qui sont du bon temps, ainsi qu'au grand temple de Dakhe, de l'époque des Lagides. Nous débarquâmes le soir à Meharaka, temple égyptien des Bâtans, changé jadis en église copte. Le 20, je restai une heure à Wadi Essebua, ou la vallée des lions, ainsi nommée des sphinx qui ornent le dromos d'un monument bâti sous le règne de Sésostris, mais véritable édifice de province, construit en pierre liée avec du mortier. J'ai pris un morceau de ce mortier, ainsi que de celui des pyramides, etc., etc., pour notre ami Vika. C'est une collection que je pense devoir lui faire plaisir. Nous perdîmes le 21 et le 22 à tourner, malgré vent et calme, le grand coude d'Amada, dont je dois étudier le temple, important par son antiquité, au retour de la deuxième cataracte. Nous le dépassâmes enfin le 23 et arrivâmes à Der ou Deri, de très bonne heure. Là, je trouvai, pour consolation, un joli temple creusé dans le roc, conservant encore quelques bas-reliefs des conquêtes de Ramsès le Grand. Et j'y recueillis les noms et les titres de 7 fils et de 8 filles de ce pharaon. Le Khatchef de Der, auquel on fit une visite, nous dit tout franchement que, n'ayant pas de quoi nous donner à souper, il viendrait souper avec nous. Ce qui fut fait. Cela vous donnera une idée de la splendeur et des ressources de la capitale de Nubie. Nous comptions y faire du pain. Cela fut impossible. Il n'y avait ni four ni boulanger. Le 24, au lever du soleil, nous quittâmes Deri, passâmes sous le fort ruiné d'Ibrim et allâmes coucher sur la rive orientale à Gehel Mesmes, pays charmant et bien cultivé. Nous cheminâmes le 25, tantôt avec le vent, tantôt avec la corde, et il fallut nous consoler de ne pas arriver ce jour-là à Ibsamboul. De beaux crocodiles prenaient leurs ébats sur un îlot de sable près du lieu où nous couchâmes. Enfin, le 26, à 9 heures du matin, je débarquai à Ibsamboul, où nous avons séjourné aussi le 27. Là, je pouvais jouir des plus beaux monuments de la Nubie, mais non sans quelques difficultés. Il y a 2 temples entièrement creusés dans le roc et couverts de sculptures. La plus petite de ces excavations est un temple d'Hathor, dédié par la reine Nofré-Ari, femme de Ramsès le Grand, décoré extérieurement d'une façade contre laquelle s'élèvent 6 colosses de 35 pieds chacun environ, taillés aussi dans le roc, représentant le pharaon et sa femme, ayant à leurs pieds l'un ses fils et l'autre ses filles, avec leurs noms et titres. Ces colosses sont d'une excellente sculpture. Leur stature est svelte et leur galbe très élégant. J'en aurai des dessins très fidèles. Ce temple est couvert de beaux reliefs, et j'en ai fait dessiner les plus intéressants. Le grand temple d'Ibsamboul vaut à lui seul le voyage de Nubie. C'est une merveille qui serait une fort belle chose, même à Thèbes. Le travail que cette excavation a coûté effraie l'imagination. La façade est décorée de 4 colosses assis, n'ayant pas moins de 61 pieds de hauteur. Tous 4, d'un superbe travail, représentent Ramsès le Grand. Leurs faces sont portraits et ressemblent parfaitement aux figures de ce roi qui sont à Memphis, à Thèbes et partout ailleurs. C'est un ouvrage digne de toute admiration. Telle est l'entrée. L'intérieur en est tout à fait digne, mais c'est une rude épreuve que de le visiter. À notre arrivée, les sables, et les Nubiens qui ont soin de les pousser avaient fermé l'entrée. Nous la fîmes déblayer. Nous assurâmes le mieux que nous le pûmes le petit passage qu'on avait pratiqué et nous prîmes toutes les précautions possibles contre la coulée de ce sable infernal qui, en Égypte comme en Nubie, menace de tout engloutir. Je me déshabillai presque complètement, ne gardant que ma chemise arabe et un caleçon de toile, et me présentai à plat ventre à la petite ouverture d'une porte qui, déblayée, aurait au moins 25 pieds de hauteur. Je crus me présenter à la bouche d'un four, et, me glissant entièrement dans le temple, je me trouvai dans une atmosphère chauffée à 51 degrés. Nous parcourûmes cette étonnante excavation. Rossellini, Ricci, moi et un de nos Arabes, tenant chacun une bougie à la main. La première salle est soutenue par 8 piliers contre lesquels sont adossés autant de colosses de 30 pieds chacun, représentant encore Ramsès le Grand. Sur les parois de cette vaste salle règne une file de grands bas-reliefs historiques relatifs aux conquêtes du pharaon en Afrique. Un bas-relief, surtout, représentant son char de triomphe accompagné de groupes de prisonniers nubiens, nègres, etc. De grandeur naturelle, offre une composition de toute beauté et du plus grand effet. Les autres salles, et on en compte 16, abondent en beaux bas-reliefs religieux, offrant des particularités fort curieuses. Le tout est terminé par un sanctuaire, au fond duquel sont assises 4 belles statues, bien plus fortes que nature et d'un très bon travail. Ce groupe, représentant Amon-Ra, Fré, Phtah et Ramsès le Grand, assis au milieu d'eux, mériterait d'être dessiné de nouveau. Après 2 heures et demie d'admiration, et ayant vu tous les bas-reliefs, le besoin de respirer un peu d'air pur se fit sentir, et il fallut regagner l'entrée de la fournaise en prenant des précautions pour en sortir. J'endossai 2 gilets de flanelle, un bournous de laine et mon grand manteau, dont on m'enveloppa aussitôt que je fus revenu à la lumière. Et là, assis auprès d'un des colosses extérieurs dont l'immense mollet arrêtait le souffle du vent du nord, je me reposai une demi-heure pour laisser passer la grande transpiration. Je regagnai ensuite ma barque, où je passai près de 2 heures sur mon lit. Cette visite expérimentale m'a prouvé qu'on peut rester 2 heures et demie à 3 heures dans l'intérieur du temple sans éprouver aucune gêne de respiration, mais seulement de l'affaiblissement dans les jambes et aux articulations. J'en conclus donc qu'à notre retour, nous pourrons dessiner les bas-reliefs historiques en travaillant par escouade de 4 pour ne pas dépenser trop d'air, et pendant 2 heures le matin et 2 heures le soir. Ce sera une rude campagne, mais le résultat en est si intéressant, les bas-reliefs sont si beaux, que je ferai tout pour les avoir, ainsi que les légendes complètes. Je compare la chaleur d'Ipsambul à celle d'un bain turc, et cette visite peut amplement nous en tenir lieu. Nous avons quitté Ipsambul le 28 au matin. Vers midi, je fis arrêter à Gebel Adeh, où est un petit temple creusé dans le roc. La plupart de ces bas-reliefs ont été couverts de mortier par des chrétiens qui ont décoré cette nouvelle surface de peintures représentant des saints, et surtout Saint-Georges à cheval. Mais je parvins à constater, en faisant sauter le mortier, que ce temple avait été dédié à Thoth par le roi Horus, fils d'Amenophis Memnon, et je réussis à faire exécuter les dessins de 3 bas-reliefs fort intéressants pour la mythologie. Nous allâmes de là coucher à Pharas. Le 29, un calme presque plat ne nous permit d'avancer que jusqu'au-delà de Séré. Et le 30, à midi, nous sommes enfin arrivés à Wadi Halfa, à une demi-heure de la seconde cataracte où sont posées nos colonnes d'Hercule. Vers le coucher du soleil, je fis une promenade à la cataracte. C'est hier seulement que je me mis sérieusement à l'ouvrage. J'ai trouvé ici, sur la rive occidentale, les débris de trois édifices, mais des arases qui ne conservent que la fin des légendes hiéroglyphiques. Le premier, le plus au nord, était un petit édifice carré, sans sculpture et fort peu important. Le second, au contraire, m'a beaucoup intéressé. C'était un temple dont les murs ont été construits en grandes briques crues, l'intérieur étant soutenu par des piliers en pierre de grès ou des colonnes de même matière. Mais comme toutes celles des plus anciennes époques, ces colonnes étaient semblables aux doriques et taillées à pans très réguliers et peu marqués. C'est là l'origine incontestable des ordres grecs. Ce premier temple, dédié à Oramon, Amon générateur, a été élevé sous le roi Aménophis II, fils et successeur de Thoutmôsis III, Meurice. Ce que j'ai constaté en faisant fouiller par mes marins arabes avec leurs mains autour des restes de piliers et de colonnes où j'apercevais quelques traces de légendes hiéroglyphiques. J'ai été assez heureux pour trouver la fin de la dédicace du temple sur les débris des montants de la première porte. J'ai, de plus, découvert et fait désensabler avec les mains une grande stèle, engagée dans une muraille en briques du temple, portant un acte d'adoration et la liste des dons faits au temple par le roi Ramsès Ier, avec trois lignes ajoutées dans le même but par le pharaon son successeur. Enfin, sur les indications du docteur Ricci, nous avons fait fouiller par tous nos équipages, avec pelle et pioche, dans le sanctuaire, ou plutôt à la place qu'il occupait, et nous y avons trouvé une autre grande stèle que je connaissais par les dessins du docteur, et fort importante, puisqu'elle représente le dieu Mandou, une des grandes divinités de la Nubie, conduisant et livrant au roi Osortasen, de la 16e dynastie, tous les peuples de la Nubie, avec le nom de chacun d'eux inscrit dans une espèce de bouclier attaché à la figure, agenouillé et lié, qui représente chacun de ces peuples au nombre de 5. Voici leurs noms, ou plutôt ceux des cantons qu'ils habitaient. Premièrement, Sehamik, deuxièmement, Osaou, troisièmement, Shoat, quatrièmement, Osharkin, cinquièmement, Kos. Trois autres noms sont entièrement effacés. Quant à ceux qui restent, je doute qu'on les trouve dans aucun géographe grec. Il faudrait avoir le Strabon de 2000 ans avant Jésus-Christ. Un second temple, plus grand, mais tout aussi détruit que le précédent, existe un peu plus au sud. Il est du règne de Thoutmôsis III, Meurice, construit également en briques, avec piliers, colonnes doriques primitifs, à montants et portes en grès. C'était le grand temple de la ville égyptienne de Béhéni, qui exista sur cet emplacement, et qui, d'après l'étendue des débris de poterie répandus sur la plaine aujourd'hui déserte, paraît avoir été assez grande. Ce fut sans doute la place forte des Égyptiens pour contenir les peuples habitant entre la première et la seconde cataracte. Ce grand temple était dédié à Amon-Ra et à Phré, comme la plupart des grands monuments de la Nubie. Voilà tout ce qui reste à Wadi Halfa, et c'est plus que je n'attendais à la première inspection des ruines. C'est de ce lieu que je vous adresse mes souhaits d'heureuses années. Je vous embrasse tous à cette intention. À Monsieur Dacier, Wadi Halfa à la seconde cataracte, 1er janvier 1829. Monsieur, quoique séparé de vous par les déserts et par toute l'étendue de la Méditerranée, je sens le besoin de me joindre, au moins par la pensée, et de tout cœur, à ceux qui vous offrent leurs vœux au renouvellement de l'année. Partant du fond de la Nubie, les miens n'en sont ni moins ardents, ni moins sincères. Je vous prie de les agréer comme un témoignage du souvenir reconnaissant que je garderai toujours de vos bontés et de cette affection toute paternelle dont vous voulez bien nous honorer, mon frère et moi. Je suis fier maintenant que, ayant suivi le cours du Nil depuis son embouchure jusqu'à la seconde cataracte, j'ai le droit de vous annoncer qu'il n'y a rien à modifier dans notre lettre sur l'alphabet des hiéroglyphes. Notre alphabet est bon. Il s'applique avec un égal succès, d'abord aux monuments égyptiens du temps des Romains et des Lagides, et ensuite, ce qui devient d'un bien plus grand intérêt, aux inscriptions de tous les temples, palais et tombeaux des époques pharaoniques. Tout légitime donc les encouragements que vous avez bien voulu donner à mes travaux hiéroglyphiques, dans un temps où l'on n'était pas universellement disposé à leur prêter faveur. Me voici au point extrême de ma navigation vers le midi. La seconde cataracte m'arrête, d'abord par l'impossibilité de la faire franchir par mon escadre, composée de 7 voiles, et en second lieu parce que la famine m'attend au-delà, et qu'elle terminerait promptement une pointe imprudente tentée sur l'Éthiopie. Ce n'est pas à moi de recommencer Cambyse. Je suis d'ailleurs un peu plus attaché à mes compagnons de voyage qu'ils ne l'étaient probablement aux siens. Je tourne donc dès aujourd'hui ma proue du côté de l'Égypte pour redescendre le Nil en étudiant successivement à fond les monuments de ces 2 rives. Je prendrai tous les détails dignes de quelque intérêt et d'après l'idée générale que je m'en suis formée en montant, la moisson sera des plus riches et des plus abondantes. Vers le milieu de février, je serai à Thèbes, car je dois au moins donner 15 jours au magnifique temple d'Ibsambul, l'une des merveilles de la Nubie, créée par la puissance colossale de Ramsès Sésostris, et 1 mois me suffira ensuite pour les monuments existants entre la première et la deuxième cataracte. Philée a été à peu près épuisée pendant les 10 jours que nous y avons passés, en remontant le Nil, et les temples d'Ombos, d'Edfou et d'Esné, si vantés au détriment de ceux de Thèbes, m'arrêteront peu de temps parce que je les ai déjà classés et que je trouve, sur des monuments plus anciens et d'un meilleur style, les détails mythologiques et religieux que je ne veux puiser qu'à des sources pures. Je me bornerai à recueillir quelques inscriptions historiques et certains détails de costumes qui sentent la décadence et qu'il est utile de conserver. Mes portefeuilles sont déjà bien riches. Je me fais d'avance un plaisir de vous mettre successivement sous les yeux toute la vieille Égypte, religion, histoire, art et métier, mœurs et usages. Une grande partie de mes dessins sont coloriés, et je ne crains pas d'assurer qu'ils reproduisent le véritable style des originaux avec une scrupuleuse fidélité. Je serai heureux de ces conquêtes si elles obtiennent votre intérêt et vos suffrages. Je vous prie, monsieur, d'agréer la nouvelle assurance de mon très respectueux attachement. Fin de la 9e lettre et du 5e fichier. Des lettres écrites d'Égypte et de Nubie.